Voilà, je voulais parler un petit peu de la situation de Nancy aujourd'hui, ville en état de siège grâce à la belle visite de notre président. Les commerces sont fermés, on est obligé d'annuler des examens ce matin. Voilà, il n'y avait pas que des universités en grève, mais grâce à ce cher président, eh bien, on est obligé de le faire. C'est formidable, interdiction de marcher, interdiction de faire du vélo, de passer en voiture, c'est magnifique. Ah ben, il y aura pas de manifestants aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des rangées de camions de CRS partout, c'est magnifique, c'est un tout petit peu effrayant. Allez, bonne journée à tous, au revoir.
AMG de la Basse-Ardèche, bonsoir. Mercredi 13 mai au Café Repère de Saint-Montant, toujours entrée du village au Petit Bistrot. À partir de 19h, on parlera politique, hein, politique européenne bien sûr, avec les propositions de différents partis sur les sujets tels que la santé, l'environnement, l'économie. C'est pas du tout une liste exhaustive. Alors venez avec vos idées et vos opinions. On essaiera de faire un beau débat, toujours sans spécialiste et toujours direct. À noter que pour le mois de juin, on prévoit pour le premier anniversaire du Café Repère de Saint-Montant une grande fête. Ce sera toujours le deuxième mercredi du mois. Et là, on fera un sujet sur les moyens d'expression et les moyens d'action. Hein, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut aussi agir. Merci à tous et à demain soir, j'espère. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Léonore de Rouen. Je tenais à vous faire part des propos et des réponses indécentes de Madame Bachelot aux auditeurs de France Inter qui sont intervenus dans l'émission de Nicolas Demorand hier. Merci à Maïté de Bordeaux, étudiante en médecine, à Sylvie, infirmière à Saint-Étienne, en service de cancérologie pédiatrique, de nous rappeler vos craintes et les grandes difficultés dans lesquelles les soignants interviennent, la souffrance à laquelle vous êtes confrontés. Et comme réponse à cet appel à l'urgence, Madame Bachelot joue les offensés. Je la cite. « Je trouve vos propos inadmissibles. Je suis le défenseur des valeurs de l'hôpital public. Je ne vous autorise pas à dire que je ne défends pas des valeurs nobles. Madame Bachelot veut nous faire croire, avec son ton obséquieux et offusqué, qu'elle est en empathie avec le personnel et qu'elle défend l'hôpital public en parlant de solidarité, du mode de financement de la sécurité sociale par la population, histoire de nous culpabiliser sur nos dépenses, mais pas de celui de la solidarité gouvernementale. Cette solidarité ne marche que dans un sens. C'est nous, Madame Bachelot, qui devrions être offusqués par vos réponses, particulièrement sur le cancer, que vous appelez une affaire, alors que c'est un drame pour les familles. Bon courage à tous ceux qui sont confrontés dans leur vie à cette maltraitance généralisée.
Bonjour les repérés de Nantes et d'ailleurs. Notre prochain repère devait être sur les élections européennes. Parce que vous savez quoi, il y a des élections européennes en juin. Si, si. Mais elles ont quasiment disparu des médias, des rues, des campagnes. Même les traditionnels tableaux de fer prévus à cet effet sont vides. Alors on a légèrement ouvert le débat. Nous nous demanderons donc, avec votre aide, pourquoi les européennes se profilent déjà en record d'abstention, mais également si les élections sont indispensables à la démocratie. Tant qu'à les zapper, autant le faire en toute bonne conscience. Nous pourrons évoquer des notions telles que le légitimisme, la représentation, la démocratie locale, l'anarchisme collectiviste, oui oui, et la place du citoyen dans la société. Alors, élection piège à con ? Ce sera avec vous ce vendredi 15 mai à 19h19, tout à fait cessante, au Méliès, comme d'habitude. À vendredi.
Bonjour, dans le cadre de sa campagne Jeunes majeurs sans papiers, RESF organise un rassemblement festif et solidaire où tous les jeunes sont les bienvenus, mercredi 13 mai à 14h, métro Varennes à 14h, je répète, mercredi 13 mai. Bonne journée à tous et nous vous souhaitons nombreux. Au revoir.
Bonjour les auditeurs, bonjour Daniel et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. J'ai déjà fêté 3 fois mes 20 ans, je suis donc de la génération de Mouna. Et en souvenir du 10e anniversaire de sa disparition, j'aimerais vous rappeler deux grandes pensées de ce poète désintéressé qui nous manque beaucoup, mais toujours d'actualité plus de 40 années après mai 68. Nous défilions le long du boulevard Saint-Michel avec une fourche au bout de laquelle était piqué un régime de bananes bien trop mûres pour être commercialisé en criant « Le régime est pourri, le régime est pourri !» Et Mouna qui scandait ensuite bruyamment comme il savait le faire « Nous sommes dans une société caca, nous sommes dans une société pipi, nous sommes dans une société capitaliste. » Vous voyez, rien n'a changé. Oh, ce n'était sûrement pas mieux avant, mais Julius Bocarne, Léo Ferré ou Mouna, ça vous forme un autre esprit que celui proposé par Johnny Hallyday, Jean-Marie Bigard ou Doc Génicaud. Alors pour terminer ce petit hommage, j'aimerais conclure ce souvenir de Mouna avec une pensée de Volinsky qui résume si bien cette époque et qui dit à peu près ceci. Nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. Voilà mon vieux Mouna, en souvenir de notre baramine que j'ai toujours et qui me sert encore. C'était Lionel de Cahors, oui oui, les petits billets, et surtout, surtout, longue vie à la Bastille, j'y suis. Merci à vous.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent à Potosí. Je suis à Potosí en Bolivie, la ville la plus haute du monde. Oui, Potosí, c'est la ville où des mineurs ont extrait l'argent, la montagne d'argent, le Cerro Rico, jusqu'à nos jours où ces mines fonctionnent toujours avec beaucoup moins de mineurs, mais elles sont toujours en fonctionnement. Et entre 1545 et aujourd'hui, des millions d'hommes et aussi de femmes, il faut le dire, sont mortes dans cette exploitation féroce et terrifiante de la mine de Potosí, mine d'argent, mine de zinc, mine d'étain. Et aujourd'hui, ça continue, je le disais, encore, malgré même la crise. Ce matin, il est très tôt, on va partir visiter cette mine avec les mineurs d'aujourd'hui. Je suis un peu essoufflé parce qu'on est à plus de 4500 mètres. Évidemment, il faut le temps que l'organisme s'habitue. Pendant ce temps-là, là-bas, si j'y suis, vous présente Mouna. Oui, c'est le 10e anniversaire de la mort de Mouna. Il y a des festivités très amicales et très chaleureuses qu'on a annoncées dans la basse, j'y suis. Et aujourd'hui, en nouvelle diffusion, deuxième partie d'une émission de Derrière les fagots qui date du 15 décembre 1993. Et oui, ça rajeunit pas. Quoique, ça va peut-être rajeunir pas mal de monde. J'espère que vous allez prendre du plaisir à retrouver Mouna. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Pourquoi les 1000 civils tamouls tués hier au Sri Lanka émeuvent si peu l'opinion publique et les médias? Pourtant, à la fête du 1er mai, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Mais aucun journaliste pour les interviewer. Au revoir.
Bonjour à tous, le repère de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, aura lieu ce mercredi 13 mai à partir de 19h, au 14 rue du Capitaine Dreyfus, à la Pizzeria Bar, métro Croix de Chavaux. À bientôt.
Dès mon enfance, dans l'existence, je n'ai jamais été gâté, soin, je me souviens même qu'à mon baptême, ma reine m'a laissé tomber, et j'ai failli me noyer tout petit haut. Au fond des ponts baptistes, bon, soin. Puis je tapais sur la guitare. En premier communion, j'étais très élégant, mais j'avais mal aux dents. Pas de chance. Si bien sûr mon piano, il y a toujours cette photo. J'ai l'air d'un idiot, pas de chance. À mon certificat, je copiais sur un gars qui se trompait déjà, pas de chance. Plus tard au régiment, j'ai fait le mur en sautant. Sur le dos de l'adjudant, manque de peau, pas de chance.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sylvie Coma, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Non, je pense avoir encore un rôle à remplir, un petit rôle à remplir. C'est une petite espèce de petit éveilleur de conscience. C'est une petite flamme qui s'élève comme ça parmi les étoiles, dans le cosmos où chacun de nous cherche l'os. L'ossature du futur, c'est ça.
Merde.
Notre siècle en trois mots. L'arnaque, la barbaque et la matraque.
Qu'est-ce qu'il a à gueuler? Qui c'est?
Allez les vers de terre. Et mon cul, ce n'est pas du poulet.
Merde.
Oh, là, c'est une connerie.
Qu'est-ce qu'il veut? Qui c'est?
Il y en a marre.
Merde.
Nous sommes dans la merde.
Je comprends pas. Moi, j'éteins le poste.
Il faut changer nos mentalités. Voilà la seule solution.
Bon.
Vous avez compris ou non?
Non.
Merde.
dérisoire, cyclodidacte, dégueulante, accrochée avec des épingles à nourrice, clodo, folklo, fandard, petit éveilleur de conscience, en vélo dans le cosmos de l'ossature du futur, le seul chevalier des arts et lettres à bicyclette, Mouna, Diogène, Don Quichotte, avec une larme de Jésus par-dessus. On va rencontrer Mouna intime, Mouna chez lui. De quoi est fait Mouna? Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Il a eu la gentillesse de nous recevoir dans son appart, dans sa cagna, quelque part, à Montmartre. Mouna avec ses épingles à nourrice et ses ressorts pour éveiller peut-être un peu quelque chose, une petite lueur au fond de nous, au fond de nos consciences endormies, gavées, nanties. Il essaye de réveiller les enfants de l'apathie. Mouna, Scopi.
Merde. C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais bien bu de 5 à 6 bouteilles, si bien que je m'étais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui se rapplique sur le zinc, fagnant qu'elle me dit, t'as lâché ton turbin. Vite je réponds, car je fais au métag, au grand métag du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À la porte, on donnait 25 centimes pour soutenir les grévistes de Vierzon. Bref, à part 4 municipaux qui schlinguent et 3 cerveaux déguisés en Pékin, j'ai jamais vu un si tant chouette métingue que le grand métingue du métropolitain. J'ai jamais vu un si tant chouette métingue que le grand métingue du métropolitain. Il y avait Bali, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils sont grimpés tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du bastringue. C'est un moucheur qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Moi, je tombe dessus et pendant qu'il proteste, d'un grand coup de poing, j'y renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste, en faisant signe aux 4 municipaux. À la faveur de ce qu'avait du bastringue, on m'a conduit jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain.
C'est en vélo?
Eh oui.
Tu le montes toujours alors?
Toujours. C'est ma croix.
Et t'as quelle vue alors d'ici?
Oh, c'est sur une cour, c'est bon. J'en prends plein la vue des toiles de reproduction des toiles de Van Gogh.
Ah ouais, c'est ce qui tapisse les murs. Mais il y a plein de trucs sur les murs en fait.
Tout. Regarde un peu.
C'est la table où tu travailles?
Non, c'est mon univers, quoi. C'est ma thébaïde, comme dirait quelqu'un. Or, une bibliothèque comme ça, tu vois, ça me revient à presque rien. Parce que moi, j'allais au puce partout. Alors, tu veux que je te lise quelques titres de livres? Alors, premier de cordée, Frisson Rouge. Que j'ai rencontré sur le nom du livre, justement, à Toulon. Il me dit, mais Moulin me connaissait aussi. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. Alors, tu vois, Frisson Rouge. Oh, les sentiments tragiques de la vie de Miguel Unamuno. Oh, ça, c'est un grand écrivain espagnol. Il est mort quand Franco est arrivé. La colombe assassinée de la Borie. Mmh. Ah, il m'a fait une dédicace. Loin du Vietnam, leur photo. Ça, c'est terrible. L'existentialisme est un humanisme. Ça, c'est un des rares bouquins que j'étais relié. Mmh. J'y tiens énormément, ça, tu vois. C'est ma richesse, ça, c'est ma richesse. la plus belle histoire du monde, Kingpin, par-delà du bien et du mal, de Nietzsche forcément. Les écrits politiques, alors ça, j'ai pas lu. J'ai feuilleté un peu de Kramsky. Voilà. Alors,
et qu'est-ce que tu lis en ce moment?
Comme de Belzébuth à son petit-fils, alors là, c'est...
Récit de Belzébuth à son petit-fils.
Alors, c'est de Gurdjieff. Gurdjieff qui avait formé à Fontainebleau le chercheur de vérité, et pour elle, c'était un de ses élèves. Alors ça, c'est, tu tombes là-dedans, tu t'en sors pas tout à fait intact. Par exemple, ce passage-là. Si le papa aime à danser au son du violon, son fils en sera sûrement réduit à jouer de la grosse caisse. C'est marrant, non? Oh non, parce que moi, ce que j'adore, c'est l'ironie. C'est les... Parce que dit souvent, nous ne manquons pas de technocrates. Vous connaissez des Socrates? Vous connaissez un Socrate? Il n'y en a pas. Oh, maintenant, tu vois, voilà le travail. Alors, le bouquin de Tardy que je viens de lire, c'était la guerre des tranchées. Regarde ça, par exemple.
C'est le dernier bouquin de Tardy.
Oui. Salaud, ordure de merde, crevure, merde à l'armée, la France, je l'emmerde. Oh, c'est dur. Alors là, justement, je vais te faire lire le bouquin qu'il m'a offert à Toulon, salon de l'île de Toulon.
On va chercher ça derrière le vélo.
Ça regarde le travail.
Ah ouais.
Voyage au bout de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a?
Le roman de Céline qu'il a illustré, c'est ça?
Oui. Pour Mouna, avec un dessin, toi. Mais moi, je quand même, ça me fait plaisir que des gens comme ça me reconnaissent un peu. Hein? C'est pas des tarés, ça.
Pourquoi t'as la Joconde sous verre?
Comme ça, parce que ça fait un mélange. Par exemple, ce couple des enfants qui s'embrassent, c'est pas beau, ça?
Il y a tellement de choses, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'objets, il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de signatures, il y a tellement de tout, de badges, de tout ce que tu veux, de trucs au cou, de partout, je sais pas par où prendre les choses.
Alors on commence, je suis né le 1er octobre 1911, c'est pas de mystère, à Mété, au Savoie, qui est village d'à côté d'Annecy. Mon père est mort, j'avais 7 ans, il est mort assez terrible, il travaillait à la fonderie de Cran, mais pour améliorer l'ordinaire, il était fossoyeur. Et un jour, un triste jour, il a été enseveli dans la tombe qu'il creusait.
Il est tombé dans la tombe qu'il était en train de creuser.
Il creusait une tombe, mais c'était en pente. C'était pas étayé. La terre a dévalé sur lui. Il en avait jusqu'au cou. Hein. Moi, je me rappelle pas bien, mais mon frère, il a crié. On l'a sauvé, mais il avait pris une congestion terrible. Il crachait le sang. Je me rappelle, moi, le spectacle de mon frère, mon père qui crachait le sang. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Tu vois, quand t'as 7 ans, tu vois ça. Alors ça m'avait bouleversé un peu, mais je comprenais rien. Puis alors le plus terrible, à l'enterrement de mon père, ma pauvre mère, elle a pas voulu que j'aille à l'enterrement. Alors j'étais tout seul en haut du cimetière, sur une petite colline, et j'étais là tout seul en train de cogiter à 7 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? La vie, je vais pas le trouver. Qu'est-ce que c'est que la vie? Mais je me disais, mais quelque chose, ça va pas, qu'est-ce que c'est? Puis alors, ma pauvre mère, eh ben, on avait une vache. Il fallait la traire, il fallait la soigner. Tout ça, c'est ma mère qui le pesait. À 7 ans, à 8 ans, j'arrachais les pommes de terre. Je glanais, vous savez ce que c'est, glaner, ramasser les épis de blé. Quand t'as 8 ans et tout ça, tu te fais chasser. Puis alors après, ramasser les fagots de bois morts pour chauffer le poêle. C'était pas une vie dorée. Puis alors, ce qui m'avait aussi, c'était quand même un peu gêné, c'est que pour Nouvel An, on allait souhaiter la nouvelle année aux gens du petit village de Mété pour avoir une orange, pour avoir un bonbon, pour avoir 2 sous. Nous étions les laissés pour compte. On était les immigrés de l'intérieur. Dans le cerveau d'un petit enfant de 8 ans, puis alors après, ma mère est morte de fatigue et tout, de surmenage, j'étais élevé. Ça m'a évité l'orphelinat par une tante. Et puis alors, drôle de façon de me réveiller, ma tante me dit, elle me réveille, elle me dit, ta mère est morte, réveille-toi. Puis alors, j'étais malin, quoi. J'étais, parce que j'allais dormir, on n'avait qu'une seule pièce à Mété. avec mon frère couché dans un lit, et j'avais dormi pendant plusieurs jours contre un mur humide. Et j'avais une poche d'eau qui s'était formée sur le côté droit. Ça avait, l'humidité avait pénétré. Et je grandissais pas. À l'école, je voyais, on peut se comparer, je voyais les copains qui étaient costauds et moi, j'étais malingre et tout. Alors je me disais, je vais pas vivre, qu'est-ce que c'est? En compte, à 10, 11 ans, tu dis que tu vas pas vivre. Drôle de perspective. Puis alors, le plus beau, c'est qu'un jour, un frère de ma tante, un oncle, quoi, il vient, il m'avait pas vu depuis 2 ans, je crois, il me dit, mais il me regarde, puis il me dit, mais il a rapote ici. Alors tout ça, ça m'a forgé un caractère un peu de révolté, quoi, sans vouloir.
Mais en fait, à cette époque-là, t'étais pas encore révolté, si?
Pas,
tu l'as gardé dans ta besace, j'ai envie de dire.
Attends, alors je continue. L'histoire continue. C'est pas tellement drôle. Enfin, une fois, je suis à 13 ans, je vois une annonce dans un journal là-bas pour me demander, petits ouvriers à 13 ans, chocolaterie d'Annecy. J'étais embauché, et je suis resté 2 ans par là, puis après, puis un copain m'a...
Et là, ce que tu veux dire, c'est que tu t'es engueulé avec le patron. Oui. Enfin bon, et c'est pour ça que t'as été viré. Ce qui s'est toujours passé ensuite, c'est que tu voulais, toi, t'avais envie de mener une vie, tout ce qu'il y avait de plus normal et banal, mais t'étais effectivement un révolté, un agressif, etc., et à chaque fois, tu te faisais virer. Et c'est ce qui t'a mené, finalement, à...
J'ouvrais ma gueule, j'ouvrais ma gueule. Mm-hmm. Ouais. Depuis le temps. Alors, j'ai un copain d'école, un jour, il me dit, tiens, je m'engage dans la marine, à l'école des mousses. Je me suis engagé avec lui, c'était sur qui était dans la rade de Brest, le Montcalm. On faisait une marche de 20 kilomètres à 16 ans et demi. Et puis alors, après, j'étais à l'école des radiotélégraphistes au Morillon, à Toulon. Mm-hmm. Là, j'ai réussi, j'étais radio de marine, et je voulais faire ma carrière, c'est vrai, je voulais faire ma carrière. Et puis, malheureusement, comme j'étais pas discipliné, eh bien, finalement, au bout de pas mal de mois j'étais cassé.
Pourquoi qu'ils avaient fait encore, là?
J'avais ouvert ma gueule encore une fois de plus. Je l'ai trop ouvert, non, pas assez. Alors, je fais sortir de la marine dans les années 33, hein, c'était la crise économique, puisqu'en Amérique, les banquiers se jetaient des gratte-ciels. En France, il y avait le chômage, on désarmait, c'était pire qu'il y avait les soupes populaires partout à l'époque, partout. Et j'étais à la soupe populaire à Cannes, et ça je manquais d'air parce que j'avais honte, parce que tu vois, tu étais dans la queue, tu fais la queue, puis les gens te regardent. Ah oui, j'avais honte. Mais alors finalement, j'ai commencé à travailler comme commis de restaurant, puis après j'étais chef de rang, garçon de restaurant et tout. Et puis alors après, je suis revenu à Paris, alors c'est le sport qui m'a sauvé, donc le rugby. Au Stade français, ils m'ont prêté de l'argent avec un ami qui était maître d'hôtel. On s'est installé 4 rue du Mail, de 43 à 46.
Et tu t'étais marié?
Marié, et puis, trop de monde, parlons pas de ma mère. Oh là là. Oh là. Ah, j'ai marié une femme qui était belle, mais bête, mais c'est pas possible.
Devinette. Quel est le ministre de la culture socialiste qui a écrit ceci? C'est un homme qui vient du fond de notre mémoire, qui a à la fois 20 ans de fraîcheur d'esprit, de verdeur, d'enthousiasme, d'émerveillement et 600 ans. Et cet homme venu d'ailleurs, d'un autre siècle, d'une autre planète, d'un autre univers, vibre beaucoup plus que n'importe lequel d'entre nous avec l'actualité du moment, la sensibilité de l'époque. Eh bien, bravo, oui, c'est Jack Lang qui a écrit ça, mais sur qui? Eh oui, bravo, c'est sur Mouna, Agigi Mouna, André Dupont dit Agigi Mouna. Et la plus belle formule, le plus bel hommage à Mouna, c'est celui de Paco Ibanez, chanteur, qui a dit ceci, Mouna sur une poubelle, c'est la statue de la liberté vivante, je trouve ça très beau. Retraité, écologiste, humaniste, mondialiste, cyclodidacte et non-violent, membre des équipes d'urgence du service civil international, 6 chantiers, Hollande, Gare, Fréjus, Florence, etc., président du club des amis de la vie. Voilà, Mouna, éditeur du journal Le Mouna.
C'est vraiment au PC que j'ai commencé à ouvrir ma gueule, mais comme il faut. Parler, apprendre à puis j'ai suivi des cours à l'université nouvelle avec Roger Garaudy, que les gens connaissent quand même, qui était professeur, tout ça, Henri Vallon, professeur au Collège de France. J'ai commencé à lire le marxisme, j'ai commencé à lire...
Tu te rappelles quel était ton premier bouquin?
Les principes élémentaires de philosophie, de Georges Polizer. Alors ça, c'est terrible. qui a été déporté et mort d'un camp de camp. Alors ça, c'est vraiment c'est le début par l'explication, par l'analyse, quoi.
Et qu'est-ce que tu commençais à piger, alors?
Ben, le Père Noël, j'y crois plus. Alors, j'ai tenu marxiste. Maintenant, je dis le Karl Marx Brothers. Pour rigoler. Parce que j'étais dans la ligne. J'étais un lignard. J'allais au marché, je vendais la terre aux paysans. En hebdomadaire communiste. Mais alors, puis alors là, bon, ben, mais ils sont occupés de ma vie privée. Et ça, c'est pas gentil. Parce qu'avec ma compagne, on s'était un peu disputé. Un jour, ça arrive dans le ménage, tu vois. Elle m'avait donné une petite claque, et puis moi, j'ai redonné une grosse claque. Alors là, elle m'a vidé la soupière de poisson sur la figure. Bon, c'est vrai, je peux pas regretter, mais c'est quand même ça, je n'ai pas été toujours très gentil. Alors, au Parti communiste, ils l'ont su, qu'on s'était disputé. Et le secrétaire adjoint est venu me dire de venir m'expliquer dans la cellule. Alors ils m'ont exclu, mais ils m'ont rendu service parce que justement c'est là qu'est venue la guéguise, parce que je croyais plus en Dieu et je croyais plus au communisme. Alors il y avait quoi? Il y avait un creux, il y avait quelque chose de vide. Et j'ai comblé ce vide en trayant le mot la guéguise, qui est une philosophie de l'utopie, du rire, de la joie, de la fête. Et Agigi, parce qu'on dit agogo, agaga. Et Agigi, c'est le cri de la vie. Alors Agigi Mouna, c'est venu comme ça. Puis je me tapais sur le front. Alors les gosses, parce que je me déguisais. Alors les mômes, tous les gosses, 7, 8, 10 ans du quartier me suivaient. Puis c'est là que j'ai acheté le premier vélo décentré, qui reflétait le monde actuel. Ça tourne pas rond, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé vraiment, j'étais devenu vraiment un militant, quoi, pour la paix, il y a un jour, il y avait un monsieur qui vient comme client et qui me dit, voilà, il y a des inondations en Hollande, à l'île de Zerizé, qui était submergée par les digues qui avaient cédé. Il y a eu 2000 noyés, et il me dit, je vais là-bas pour donner un coup de main, pour mettre en, hop, il dit, comment? Comme ça, gratuitement? Je dis, donnez-moi l'adresse. L'acte gratuit. Et c'est comme ça que je suis venu, après non-violent, par des actions comme ça. Hein, j'étais là-bas un mois presque. J'avais fermé le restaurant, mais les impôts couraient, tout ça. Et puis, je commençais à faire des discours dans les rues. Je commençais à passer des nuits au commissariat. J'ai comparu 5 fois dans les tribunaux pour outrage à agents et rébellion.
Face à direction dangereuse!
Qu'est-ce qu'il y a là, ma gueule? Ma gueule, elle me plaît, moi.
En ligne,
à Paris, en 55, je fais faillite. Bon, oui. J'avais 4 solutions. Reprendre la veste blanche, pantalon noir, comme j'ai pas voulu. Voler, escroquer, j'ai pas voulu. Me suicider, j'ai pas pensé. J'ai pris la 4e, c'est la route. C'est l'aventure. Comme un gitan, comme un manouche. D'abord, j'étais au sein de Marie de la Mer. J'ai connu les gitans. J'étais un déleur et tout. Bon, j'ai pris la route, comme ça, sur mon vélo décentré.
Ça devait être pratique, non?
Alors, j'arrive à Saint-Raphaël, la première soirée, tu vois. Oh, j'ai cru devenir clochard. Il y avait, quand j'avais une tenue un peu bizarre, avec le vélo décentré, j'avais un chapeau, je sais pas, melon. J'ai acheté une baguette de pain. Un camembert, 1 litre de vin, comme les clodos. Ouais. Puis je dis quand même, alors j'avais quand même quelques sous encore, hein, pas beaucoup, mais enfin. Alors j'avais vu un petit restaurant, le bar des Alliés, derrière la gare, à Saint-Raphaël. Bon, je dis bon, ben je vais encore me manger. Je remettais au lendemain pour faire la manche. J'osais pas. Ouais. Alors heureusement, ce qui arrive, c'est coïncidence heureuse. J'étais au comptoir en train de siroter un kir, je me rappellerai tout, avec ma guitare, mais je savais pas en jouer, on devient pas guitariste en 8 jours, toi. Et alors, elle nous dit, je vais interpréter la mort du cygne de Saint-Saëns. Et tu vois ce spectacle ubuesque, débile, qui était maigre. Elle s'étale par terre, puis elle gigotait, tu vois, elle se remue. Avec son gosse, qui avait 8-10 ans, qui avait une harmonica, il savait pas en jouer. Et puis elle fait la manche, la quête. Et tout le monde donne. Mais je dis, moi j'étais allé au comptoir. On dit, oh, je fais beaucoup mieux qu'elle, qu'est-ce que... Et, coïncidence, au fond de la salle, il y a un gars qui dit, hey, toi là-bas, fais-nous oublier cette malheureuse. Il m'avait sauvé. J'ai chanté Le Déserteur de Boris Vian. On l'a applaudi. Oh, j'étais applaudi. J'ai chanté une chanson de Bourville. Pas de chance. Je me rappelle encore un type. Dès mon enfance, dans l'existence, je n'ai jamais été gâté. Soin. Je me souviens même qu'à mon baptême, Marine m'a laissé tomber. Et j'ai failli me noyer tout petit. Au fond des ponts baptismaux. Puis je tapais sur la guitare. En premier communion, j'étais très élégant, mais j'avais mal aux dents. Pas de chance. Si bien sûr mon piano, il y a toujours cette photo. Je l'air d'un idiot, pas de chance. À mon certificat, je copiais sur un gars qui se trompait déjà, pas de chance. Plus tard au régiment, j'ai fait le mur en sautant. Sur le dos de l'adjudant, manque de peau, pas de chance. Alors il se marrait et c'était parti. Alors je disais la tirade de l'avare de Molière, en loufoque, que j'avais rangé.
C'est comment ?
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé le gaz, le téléphone, l'électricité. Or, tout ça, ça plaisait beaucoup aux gens. Parce que faire la manche, c'est bien gentil, mais il faut donner quelque chose. Heureusement, maintenant, à Paris, il y a quand même des gens qui sont sortis de la merde, parce qu'il y a ces journaux, SDF, Macadam, que j'achète, Réverbère et tout ça. Ça, c'est bien. C'est une très bonne idée. Hein. Je voudrais qu'il n'y ait plus de malheur. Parce que moi, je suis bouleversé quand on apprend, comme l'hiver dernier, 15 personnes sont mortes de froid en France. Faut pas l'oublier, mince. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est la folie. C'est pour ça que je relis la folie des races. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? C'est un monde de merde. Je m'excuse pas, c'est vrai. Par moment, j'ai aussi un moment de pas déprime, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais à 82 ans? Qu'est-ce que j'ai crié? Comment je vais terminer? Ça va plus, ça. C'est pas possible que ça continue.
Encore une dent contre les moulins à vent. Moulin, la manif à lui tout seul. Mais il y en a qu'un moulin, et heureusement pour le pouvoir qu'il y en a qu'un, parce qu'imaginez des moulins à tous les coins de rue, gueulant, braillant, poilant, grains de sable, puce à l'oreille. Partout des Hyde Park, partout ça deviendrait le Hyde World. Et on se demande qui viendra derrière des papis comme ceux-là. Alors en attendant, ben prenez-en de la graine, comme le fait Mouna, le fait encore Mouna, il jette des graines aux gens dans les restos, dans les rues, en leur disant prenez-en de la graine. Faut pas oublier que nous sommes en présence du président, directeur, général, PDG, responsable, cycliste, colporteur, Dupont, mais pas de Nemours, président, directeur général du journal Mouna Frère, trimestriel, paraissant selon le fonctionnement de la pompe à finances, rien sur le tiercé, rien sur l'horoscope, tout sur la paix, mais la paix pète.
Oui, le journal le moins lu. Ça fait 30 ans que ça dure et ça s'arrête maintenant.
Et tu le tires en combien d'exemplaires, ce journal?
Ben, ça dépend les jours.
Non, ça s'arrête pas.
Non, c'est fini maintenant. 30 ans, ça s'unit. Non.
Ah oui, ils sont là derrière la porte, tous les tas de mounas. 1500 encore. 500.
Eh oui, j'en suis président, directeur général, responsable, cycliste et vendeur. Le journal qui rend les jambons, mais pas saucissons secs. Le journal qui réveille. Passe-moi le réveil, tiens. Passe-moi dans la sacoche.
Dans la sacoche du vélo qui est là, contre l'armoire, contre la penderie.
Ouais, tu le trouveras en bas, caché. Voilà, l'utopie. Voilà, il est là. Et voilà,
Le petit réveil bleu.
Et le journal qui réveille les consciences. Et alors là aussi, la poésie. La poésie, ça, c'est, j'adore la poésie. Ouais. C'est revue des poèmes, des dossiers d'Aquitaine, 5 impasse Bordeaux. J'avais été avec eux. Puis alors, ouais, je fais partie aussi, je m'occupe aussi de, avec Cousteau, là, hein, tout ça, je fais partie.
Là, une revue sur la désertification du Sahel.
Oui, tout ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est.
Il y a un gros poste de télévision aussi.
Bernard Dimet, le grand poète Bernard Dimet, Henri Gougaud. Ça, c'est mes potes. Alors, Bernard Dimet, c'est... Ah tiens, Bernard Dimet, voilà.
Faut le suivre dans la petite piole. Il court partout.
Bessières de Paris, avec Mouloudji, Bacali Noël, Bernard Dimet, Francis Lay.
C'est un disque ?
C'est un disque. Alors là, poème. C'est le Bessière de Paris. Attends une seconde, c'est que... Voilà. Le barbu reviendra, j'entends encore son orgue. Il reviendra vers nous quand il aura tout vu. Il est allé cueillir les herbes de la sorgue, la fleur des terrains vagues qui n'existent plus. Les nuits blanches à Paris ont des couleurs atroces, ou de zin, ou de sang, ou la couleur des yeux, les yeux jamais fermés des forçats de la noce qui baffrent au hasard le diable ou le bon Dieu. Eh bien...
Il parle de toi.
Le barbu, il m'a dit justement, il me l'a dit lui-même, Bernard Dimet, chez Attilio, place du Tertre, il m'a dit un jour, je suis en train d'écrire un bestiaire et tu seras, voilà. C'est pas mal, non?
Il y a un vieux gramophone par terre aussi. Ouais. Dis donc, il y a un gros poste de télé, là. Je suppose que tu suis l'actualité.
Ah ben, j'ai la 1, la 2 et la 3. Mais la 1, je la regarde pas. Mais j'ai la 2 et la 3 et la 6. Mais j'ai pas Arte, malheureusement. Arte, je voudrais bien l'avoir, malheureusement, je n'ai pas Arte. Mm-hmm. Puis tiens, oh ça.
Qu'est-ce que c'est que ces petits livres rouges? Attends, je vois pas. Citation
du président Mao Tse-Tung.
Du président Mao Tse-Tung. Trois, en trois exemplaires, ben dis donc.
Cinq essais philosophiques. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je le lis. Puis alors, on a offert ce petit bouquin, ce petit Les Lanternes de Rochefort, qui est une petite brochure qui paraissait en 68, en déco, 1868. Rochefort, car il a eu des ennuis avec les flics. Je voulais te lire un truc qu'il avait écrit, ça c'est, je crois que c'est ça, attends. La plus arriérée et la plus ignorante des nations, j'ai nommé la France, sera nécessairement la dernière à la proclamer, l'abolition de la peine de mort. Pour ma part, je n'ai jamais pu me décider à m'apitoyer sur Louis XVI, qui, en abolissant la peine de mort, avait un moyen si facile de ne pas mourir monté sur l'échafaud. C'est bon, non? C'est tout bon.
Cette histoire de bagne militaire que tu as fait fermer, on peut vraiment dire que c'est toi qui l'as fait fermer, ça?
Oui, sûrement. Ça s'est passé en 69, après 68.
Tu as été le premier à en parler.
Un témoin s'appelle Louis Beaugendre, qui avait passé 2 mois et demi là-bas, qui tient un bistrot rue Saint-Denis, hein, je donne son nom, et c'est par lui que j'ai connu l'existence de ce bagne militaire. Des gens sont dans des cachots, dans les souterrains, qui sont, ils se suicident parce qu'ils peuvent plus supporter la souffrance, c'est biribé de la tombe d'un. Et alors, Beaugendre, qui était garçon de café à l'époque, il me dit, écoute, on devrait aller là-bas, on fait une manif, devant le Forêton. Et je dis, d'accord. Alors, je dis, moi, je vais à Avignon, alors on peut se donner rendez-vous à Grenoble. J'arrive là-bas. Il peut pas me dire. La lettre, il me dit, je suis retenu, je sais pas pourquoi. Eh bien, tout seul, j'ai organisé la manif. J'étais à la maison des étudiants. J'ai fait tirer 500 tracts. Non fort est-on bagne militaire. Manifestation silencieuse, non violente, tel jour. Alors, je prends le train à Grenoble. Et à 7h, 8h moins le quart, j'arrive à Eton, à Iton, parce que c'était à 10h prévu la manif. La petite monticule, là, il voit un drapeau, c'est là. Je monte, un silence. Alors, il y avait une passerelle, puis il y avait une sentinelle. Alors, j'ai la sentinelle, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il me dit rien. Je donne un tract.
À la sentinelle?
Aussitôt, l'alerte était donnée. Oh là là. Vous arrivez dans la caserne, du fort, et tant, deux types, avec un ceinturon à la main, plié. Les chemins, vous voyez, oh là là. Or, je suis foncé dans la descente pour fuir, parce que ici, ils me lâchent les chiens, dis donc. Alors, finalement, lendemain, dans le Dauphiné, quelques lignes, manifestation devant le Forêton.
J'étais seul.
Et tout ça, ça a déclenché que j'ai connu, après j'en ai parlé à un gars de l'hebdomadaire le Nouvel Obs, Bachmann, qui a fait 2 pages, le Canard Enchaîné en a parlé. Et puis le plus beau, c'est que René Cruz, qui était un pasteur, qui maintenant il s'est retiré un peu, un jour il me disait, quelques mois après, qu'il avait été là-bas, il avait été reçu, il avait vu, le capitaine l'avait reçu, puis le capitaine avait dit, oui, on vous présentait mieux que ce barbu hirsute, et Cruz a dit, mais si ce barbu hirsute n'était pas venu, je serais pas là.
Quand est-ce que tu as commencé à porter autour du cou une colombe de la paix, une petite cloche, un signe de la paix, et ton épingle nourrice micro?
Ah ben ça fait, je me rappelle plus maintenant. ça fait au moins l'épingle nourrice. Ça remonte à quand j'étais soir louvois, par là. En 55, 60.
Et pourquoi t'as commencé comme ça, donc, à t'habiller de façon rigolote, à porter tout ça, à te laisser pousser ta barbe, à te la couper dans un sens, enfin?
Parce que l'ennui naquit un jour de l'uniformité. ma richesse, c'est ça, c'est ici, c'est mon univers. C'est quand je me lève, que je vois en face de moi les peintures, la production des peintures de Van Gogh, quel génie. Quand je vois ça, je me dis, mais... C'est pas pareil.
Si on commence à faire le détail de tout ce qu'il y a ici, alors il y a des chapeaux, il y a un casque de Bobby.
pour pas oublier ça aussi.
Impossible oubli, 45-70, c'est quoi? C'est une photo des camps de concentration?
Voilà, c'est ça, regarde. Ça, c'est mon ami Robert Malin, j'étais un des 30 pendant la guerre d'Algérie, qui m'a donné ça.
Et ça aussi, ça, là, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, on voit des gosses derrière des fils barbelés.
Ah ben oui. Oui, je suis malade de la paix, tu vois, regarde ça. C'est... Voilà, solution finale. Mm-hmm. Alors les révisionnistes, si vous voyez ça, hein, ceux qui ne savent pas exister. Non, c'est... Il faut tout... Puis ces bébés, là, ces bébés...
Mais oui, c'est ce que j'étais en train de voir. T'as des poupons, des nounours, un masque à gaz.
La roulotte, on m'a fait cadeau, ça, c'est un...
Un petit jouet en bois.
Voilà.
Dis donc, parmi tous les objets...
Alors, on va rigoler un peu, quand même, on va dire ça. La vie, un homme a bien de la chance s'il en sort vivant. Ça, c'est Field, c'est un humoriste anglais.
T'y penses, toi, quelquefois, à la mort?
Ben, sans arrêt. Oh, non, pas sans arrêt, non, quand même. Je pense souvent, forcément. Alors, je vais te le dire, comme disait Paul Léoto dans Passe-temps, il a dit que un petit tour au crématoire, puis c'est fini.
Incinéré?
Ah ben oui. Puis mes cendres seront jetées dans la mer, dans l'eau. Puis alors, justement, je pense que retrouver les dauphins, parce que c'est tellement inexplicable cette venue de l'être humain sur la Terre. Combien de milliards d'années, le Big Bang et tout, ça ressemble, ça veut rien dire. C'est l'absurde. Alors moi, je suis un enfant de l'absurde. Parce que, en arrivant sur la Terre, on est condamné à mort, et c'est pas pour ça qu'il faut faire des gueules entièrement. Alors quand on voit que ceux qui sont sur la peine de mort, alors les mesures qu'ils veulent prendre pour les condamner à la perpétuité et les sortir. Oh, mais c'est fou. C'est vraiment fou.
L'air de rien, Mouna est beaucoup plus sérieux qu'il en a l'air, et son image de rigolo de Gugus le fatigue de temps en temps. Lors d'élections européennes, un candidat des Verts avait proposé qu'il soit sur une liste, et des conseillers de ce candidat lui ont déconseillé en lui disant « Pas Mouna, c'est quelqu'un de pas sérieux ». Et là, Mouna s'est mis en pétard. Il a dit « Comment ça? Je suis pas sérieux, je me bats contre l'armement, contre la torture, contre les injustices, je défends la nature, la paix, la vie, et je suis pas sérieux. Je suis membre du service civil international, du MRAP, de la Ligue des droits de l'homme, membre de Greenpeace, de la défense des animaux, du Secours populaire, de SOS racisme, mais je suis citoyen du monde et je suis pas sérieux. J'en ai marre de traîner cette étiquette de Gugus. J'aimerais que l'on garde de moi l'image d'un homme qui prêchait le bonheur. » Fin de citation. Et je crois qu'il faut en profiter. La citation sera jamais terminée. Ces citations sont jamais terminées. Il faut en profiter parce que bientôt, dans la rue, on verra plus qu'un vélo dessiné par Cabu avec plus personne dessus.
Je retrouve ce cahier de signature, croisade anti-atomique, en 1960-61. Je quittais la France parce que, comme je ne pouvais pas accepter d'être complice, étant restant français, de la guerre terrible que nous menions contre l'Algérie, alors je me suis dit, je vais partir sur les routes du monde, comme ça. Je ne suis plus français, je suis citoyen du monde. Alors je me rappelle, j'ai pris un cargo à Gênes, et je suis arrivé après à Beyrouth, mais je me suis arrêté à Athènes. Et au cours de mon voyage, surtout après arriver là-bas, j'ai rencontré mon ami Michel Menot, qui était à Jérusalem à l'époque, qui était étudiant en théologie. Et j'ai pu signer avec lui, mais il n'y avait pas le temps. C'était écrit en plusieurs langues, tu vois, regarde ça. Alors, pour dire à Dieu qui nous appelle à vivre en paix, j'ai accepté de marquer Dieu, parce que comme, hein. Et par amour pour l'homme, dont la vie est en danger, nous protestons contre les essais de bombes atomiques, quel que soit le pays qui en est responsable. Alors, c'était traduit en arabe, c'est traduit en grec, et en anglais. J'ai fait signer tant d'étudiants. Alors, par exemple,
voilà. C'est un sacré document.
Janvier 62, Jordanie. Et j'en ai plein, regardez, toutes les
il y a et dans toutes les langues en plus.
Alors, ça, c'est la mosquée d'Omar. Hein. Alors là, c'est les coptes orthodoxes. Oui. Les seuls qui ont refusé, c'était un truc français, je crois, du curé. Alors, ceux qui disent Mouna, c'est un rigolo, par exemple, en 65, le 28-8, à Golfe Juan, avec des pique-niques, des hippies, on avait loué 4 pédalos et on avait tourné autour des bateaux de guerre avec un écriteau « Peace au Vietnam ». Référendum, justement, là, toujours pour en venir à mon...
On feuillette toujours le cahier de pétition.
La cessation des armes nucléaires, voilà. Alors, citer Bertrand Russell, Jean Rostand, Einstein...
mais oui, voilà.
Pour le référendum mondial pour la cessation des armes nucléaires, Einstein disait, de plus en plus distinctement se profile le spectre de l'anéantissement général.
Ça, c'est Einstein qui disait ça. Oui. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'Einstein t'a écrit.
C'est ce soir, Louvois, j'avais gardé une photo que j'avais dans le hall de Jean-Patrick Antibes, Einstein qui tirait la langue.
Oui.
Voilà, alors je vais écrire une lettre en disant, voilà, nous avons créé une association, loi de 1901, dont le but c'est de rompre la monotonie de la vie sans vers autrui, en tout le temps à la gaieté, la joie, c'est ce que j'essaie de faire encore maintenant. Alors, nous aurions que vous souhaitiez d'être présidente d'honneur. Et Einstein, au bout d'un mois, il m'a répondu cette lettre, dont voilà un extrait. Il est vrai, des académies, institutions de ce genre extrêmement méritantes, mais pourtant le désir de la vérité n'est pas aussi pur que ça. Il est troublé par les considérations politiques de tout genre, par l'ambition, et puisque la modestie des forces qui caractérise l'intellect humain, érige des barrières immuables à nos possibilités, je connais presque par cœur, on peut défendre une attitude qui place la pureté des motifs au-dessus du poids du succès. N'hésitez pas à accrocher dans votre restaurant mon portrait qui, du reste, illustre bien mes convictions politiques. Il ajoutait, et j'accepte volontiers de devenir président d'honneur d'autres associations. Donc, c'est un non-conformiste, parce que était professeur là-bas à Princeton, New Jersey. Il posait des questions aux gens, aux Français, à la colonie française. À Guigui, qu'est-ce que c'est? Il savait pas. Alors, et malgré tout.
Mais il avait pigé, quoi.
Et alors, il y a aussi.
Alors, on continue à feuilleter le cahier de pétition. Jean Rostand.
Jean Rostand. Tout ça, c'est encore des signatures.
Et donc, qu'est-ce que t'en as fait, alors, de ces cahiers de signatures?
J'ai fait voir à des gens, mais je peux pas, je voudrais faire des photocopies, mais ça coûterait beaucoup d'argent, tout ça. Tiens, alors, pour changer de truc, une lettre que j'ai reçue d'une petite enfant qui doit avoir 7 ou 8 ans. Voilà ce que, alors, le français, regarde comment c'est, tu peux le lire.
Mon maître Mouna, tu es très très gentil, tu es marrant, et vous avez raison, la politique, et de la merde, et je sais que tu as fait 30 ans de trucs marrants, et quand je serai grand, je ferai la même chose, et puis un petit dessin. Ah, c'est toi qu'elle a représenté, en fait, juché sur une poubelle. Bah, dis donc, t'as combien de milliards d'enfants?
Mais tous les enfants du monde.
Sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, misère. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? De toute façon, ça va pas durer, hein. Ça va être interdit, la vente forcée, là, comme ils font, là. Parce que si on vous passe des conneries toute la journée, vous finissez par les acheter, hein. Vous n'êtes pas raisonnable non plus. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère, peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère, devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère, tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en.
Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu le relis quand, par exemple, t'as un peu... Quand tu déprimes un peu, ça doit bien t'arriver quand même.
Non, je déprime pas. Non, je pas de. Je veux pas dire que je déprime. Par moment, il m'arrive de pas de m'emmerder, mais par moment, je veux dire quand même. Oui, mais j'ai toujours quelques. Ça dure quelques minutes. Hein. C'est très très court. Alors je plonge dans ma petite bibliothèque. Je peux pas dire que je m'ennuie.
Est-ce que t'as de l'espoir quand même pour les générations futures justement?
Je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis lucide. C'est-à-dire que j'essaie, dans mes faibles moyens, essayer de faire prendre conscience aux gens. Est-ce que j'y parviens? C'est pas facile. Sur un sujet qui me préoccupe simplement, c'est tout azimut. Voilà, on proteste pas pour la survie, pour que les gens deviennent plus sympas, moins violents, moins... C'est surtout la violence que je condamne, c'est ce qui se passe actuellement un peu partout. Il y a la Yougoslavie, ce qui se passe à Haïti, c'est monstrueux. En Haïti, c'est l'armée qui partout domine, c'est l'armée qui tue, qui massacre. Et alors, en ex-URSS aussi, qu'est-ce qui se passe là-bas, hein? On en apprend des belles. Non, mais c'est pas possible. On peut pas se taire. Alors, il y a tellement de sujets à de scandales à dénoncer que je ne sais pas maintenant par lequel commencer.
Tu vas jamais prendre ta retraite, Mouna?
Pourquoi je le reprendrais? Quand je serai bon à la casse. Non, je pense avoir encore un rôle à remplir, un petit rôle à remplir. C'est une petite espèce de petit éveilleur de conscience. C'est une petite flamme qui s'élève comme ça parmi les étoiles, dans le cosmos où chacun de nous cherche l'ossature du futur. C'est ça. C'est un peu de surréalisme. Parce que le réel, il est pas tellement jojo, hein. Alors, essayons de s'évader, de pas être conditionné, de pas se laisser imprégner par toutes ces nouvelles, de pas jouer le jeu, quoi. Quand j'étais gosse, je disais pouce, je joue plus, hein. Ben maintenant, je continue à dire pouce, je joue plus. Je joue plus le jeu des grands. Et moi, je commençais à, par exemple, le Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'ai découvert, j'avais 45 ans. Et comme disait Picasso, on met très longtemps à devenir jeune. Et moi, je crois que j'ai eu la chance de retrouver cette jeunesse de l'âme, du cœur, de la, voilà. Pour ça que c'est pour ça que d'abord que vous me posez des questions.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Sylvie Coma du 15 décembre 1993. À lire à Guigui Mouna, Gueule ou Crève, Dan Gallois avec les préfaces de Cavana et des dessins de Cabu. C'est aux éditions Les Dossiers d'Aquitaine. Et puis l'association Les Dossiers d'Aquitaine vous invite ce soir à la soirée consacrée au 10e anniversaire du départ d'Aguigui Mouna. Le rendez-vous a lieu à partir de 18h au bistrot Le Ver à Pied, 118 rue Mouffetard, et c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Toutes les informations sont disponibles bien sûr sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. À la technique cet après-midi, Michel Thomas et Guillaume Lacroux. La réalisation était bien sûr signée Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde, assistée de Charlotte Perry, la chef du répondeur. On n'oublie pas Agnès Lebot, le numéro du répondeur de là-bas, 01 56 40 37 2 fois.